Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes dans la joie de vous accueillir parmi nous ce matin. Donc, comme j'avais promis la semaine dernière, il y avait quelques séries de prédications au sujet du livre des juges. Donc, je veux terminer aujourd'hui cette série-là. Et juste à titre de rappel, nous avons parlé la dernière fois des traits de caractère des trois ennemis du peuple de Dieu, que sont les Moabites, les Ammonites et les Amalécites. Et ce matin, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci m'entretenir avec vous des traits de caractère de quelques juges, en considérant autant ce qui fait leur force et autant ce qui est leur faiblesse pour notre instruction. Oui, l'apôtre Paul rappelle que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Mais en parlant des traits de caractère de ces quelques juges, j'aimerais que vous gardiez en l'esprit ce que nous cherchons à développer. Quelles sont les qualités requises pour être employé par Dieu? Je répète, quelles sont les qualités requises pour être employé par Dieu? Et sans tarder, je vous invite à chercher votre Bible dans Juges chapitre 3, versets 13 et 14. Et on va parler de Ehud, un juge que nous avons vu déjà dans les prédications précédentes. Juges chapitre 3, versets 13 et 14, juste pour nous situer le contexte dans lequel il se trouvait ce juge. Verset 13, « Églan réunit à lui les fils d'Ammon et les Amalécites. Il se mit en marche, il bâtit Israël et ils s'emparèrent de la ville des Palmiers, c'est la ville de Jéricho. » Verset 14, « Et les enfants d'Israël ont été assujettis 18 ans à Églan, roi de Moab. » Donc, revenons en arrière. Ici, le peuple a été libéré d'une oppression de 400 ans environ en Égypte. Il se trouve maintenant dans le pays de la promesse, le pays donc Canaan. Ce qui est une ironie, comme on l'avait souligné, c'est qu'un peuple censé vivre dans la liberté dans le pays de Canaan, se retrouve à nouveau dans une oppression pendant 18 ans, où les Moabites, avec leur roi Églan, dominent sur Israël. Donc, le roi Églan s'installe maintenant à Jéricho, comme nous lisons au verset 13, ils s'emparèrent de la ville des Palmiers. J'ai dit une ironie de voir que ce roi vient s'établir dans cette ville symbole pour dominer maintenant Israël. Et c'est dans ce contexte que Dieu envoie comme juge Ehud. Les traits de caractère d'Ehud, donc la particularité, nous lisons verset 15, gardez votre Bible, chapitre 3, donc verset 15. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur suscita un libérateur, Ehud, fils de Guéra, Benjamite, qui ne se servait pas de la main droite. Et les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Églan, roi de Moab. Quelque chose vous frappe ici? Ehud ne se servait pas de sa main droite. Il était gaucher, comme d'autres benjamites par la suite, à la fin du récit des juges. Mais les benjaminites étaient connus comme étant habiles de la main droite. Donc Dieu l'a utilisé parce que, je dirais, il était particulier. Il était gaucher. Aussi à l'époque où la plupart des hommes en Israël étaient droitiers. Et cela est encore un peu particulier parce qu'au verset 15, nous lisons qu'il est un benjamite. Et Benjamin, en hébreu, signifie fils de la main droite ou du côté droit. Donc vous voyez un jeu de mots, fils de la main droite qui est gaucher. Et je me rappelle autrefois, que à l'école, on forçait les enfants gauchers, n'est-ce pas, et on tapait le doigt pour qu'ils écrivent à la main droite, n'est-ce pas? Et c'est une souffrance pour les gauchers. Mais je dirais que c'était un avantage en ce qui concerne ici le juge, parce qu'il pouvait surprendre son ennemi, parce qu'il ne commence pas avec la main droite, mais justement de l'autre côté, et là où on s'attendait pas, où il peut avoir une épée. Et c'est comme ça que il a tué le roi Aiglon, je vais pas revenir. Et donc, Dieu l'a utilisé comme il était. Et il y a une petite application pour nous ici. Il ne faut pas avoir de complexe. Oh, je suis différent des autres. Les autres sont mieux que moi. Non, le Seigneur veut nous utiliser comme il nous a créés et faits. Et c'était le cas avec Ehud. Qu'est-ce qui est important à retenir avec Ehud? Ehud a voulu aider le peuple de Dieu avec ses moyens tels qu'il était. Et c'est un encouragement pour nous aujourd'hui. Si vous êtes en Jésus-Christ, Dieu a préparé d'avance une œuvre pour que vous le fassiez pour lui, avec ce que vous êtes, mais soutenu par la puissance de Dieu à travers son esprit en vous. Je veux maintenant passer à un deuxième juge. Nous avons vu donc Ehud. Je voudrais parler maintenant de Déborah. Et je vous invite à nouveau maintenant à regarder Juges chapitre 4, versets 1 à 4. Donc, Juges chapitre 4, versets 1 à 4. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Ehud fut mort. Donc, nous venons de parler d'Ehud. Il est mort maintenant. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatsor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Rachet Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel car Jabin avait 900 chars de fer. Il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Et dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Voilà le contexte. Donc, en résumant ce contexte, le peuple connaît de nouveau un déclin spirituel. Il est opprimé avec violence par Jabin, roi de Canaan, et son général en chef, Sisera. Et l'auteur donne ce petit détail, que leur armée est extrêmement puissante parce qu'ils possèdent 900 chars de fer. Et nous avons lu que la violence est extrême lorsque Déborah intervient comme juge en Israël. Mais la chose qui est frappante, on peut s'étonner de trouver une femme au rang des juges en Israël, alors que jusqu'à présent, Dieu n'avait pas désigné de femme pour prendre la responsabilité, je dirais, politique et religieuse à la tête de ce peuple. Mais il faut se questionner, ici, on ne parle pas de féminisme. Ici, la raison principale de ce choix nous est expliquée en Juges 5, verset 7, et retenez bien ça. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force, faut le répéter. Et quand je me suis levé, c'est Déborah qui parle, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Donc vous voyez, le contexte était triste. Donc, il laisse peu d'espoir, puisque les chefs à la tête du peuple semblent avoir abdiqué et capitulé. D'où l'appel de Dieu concernant Déborah. Donc la particularité de Déborah, elle était une femme. Et en fin de compte, dans cette culture et dans ce contexte, qu'il y ait eu une femme comme juge sur Israël était unique. Et Déborah, la seule femme juge de la Bible. Donc, choisir Déborah, c'est un choix invraisemblable quand on se place dans le contexte de l'époque. Et on n'entend pas du tout parler de son mari, sinon Lapidote, et c'est tout. C'était son nom. J'aimerais qu'on regarde, d'après le texte, qu'est-ce qui a fondé l'autorité de Déborah et qui nous donne une application pour nous aujourd'hui. Je dirais, l'autorité de Déborah est fondée sur le fait qu'elle ne cherche ni pouvoir ni honneur. Et prenez note et ce verset, chapitre 4, verset 9 à 10, pour voir cela. Mais ce qu'elle cherche, c'est seulement à obéir à ce que Dieu lui dit. Chapitre 4, verset 6 à 7 et verset 14. On remarque chez Déborah que c'est une femme humble, de cœur humble. Elle sait que ce n'est pas à elle que reviendra la victoire sur ses ennemis. Et quelle preuve? La preuve, c'est qu'elle n'en tirera aucune gloire, puisque c'est un homme, Barak, hein, qui sera désigné pour mener la bataille. Et c'est ce qu'elle lui dit. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Et Barak lui dit au verset 8 et 9, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Et elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak à Kedesh. Donc, en plus de son humilité, d'après ce que nous venons d'entendre dans ces passages, on voit une attitude courageuse et motivante de la part de cette femme. Donc, c'est quelque chose qui me frappe aujourd'hui, surtout dans notre mentalité occidentale, où le féminisme prend beaucoup d'ampleur. Je vois, de ce que nous venons dans l'exemple de Déborah, qu'elle a su se limiter à la tâche que Dieu lui a attribuée. Ça, c'est très important. Déborah a su se limiter à la tâche que Dieu lui a attribuée. Elle n'a pas fait ce que Dieu ne lui demandait pas. Alors, et comment justifier ça? Regardez, chapitre 4, versets 4 et 5. Elle n'a fait que ce que Dieu lui demandait. Et donc, verset 4, dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Donc, vous voyez ici, si vous remarquez, elle savait être une véritable femme, car elle n'a pas lâché sa position de femme. Vous voyez? Elle était là, à la maison, sous son palmier, dehors, bien sûr, il faisait chaud. Mais il fait beau tout le temps dans ce pays, ce sont les gens qui doivent venir vers elle. Vous voyez, les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle voulait aider le peuple de Dieu, mais elle était aussi appelée par Dieu. Elle était une prophétesse. Et quel est le rôle d'une prophétesse, des prophètes? C'est de communiquer le message que Dieu voulait transmettre à son peuple. Donc, dans son ministère, rejaillit la totale confiance en Dieu et en qui elle dépend et son entière soumission à Dieu. Je rappelle, verset 14 du chapitre 4, « Alors Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi ? » Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. Vous voyez, la confiance que Déborah avait en Dieu, et c'est ce que Dieu lui a dit, que la victoire sera acquise, parce que c'est Dieu qui va donner la victoire, et non pas Barak même. Et ce qui me frappe aussi, elle n'était pas comme les prophètes. Vous savez, dans l'Ancien Testament, ces prophètes doivent aller dans les portails des villes, dans les capitales de Jérusalem. Mais elle, nous venons de voir que c'est les gens qui viennent vers elle. Elle voulait rester femme tout en accomplissant le service pour Dieu. Elle voit qu'il faut que l'armée Israël combatte. Alors là, elle dit à un homme, à Barak, qui est son chef de l'armée, qu'il était appelé par Dieu pour ce service, mais Barak n'est pas d'accord. Il n'était pas d'accord. Barak lui dit, je n'y vais pas, sauf seulement si tu viens avec moi. Elle dit, je viens, mais elle n'a pas pris la direction de l'armée israélienne pour autant. Elle l'a laissé à Barak. Elle est prête pour le soutenir. Ainsi, elle dit au verset 9, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. C'est pour dire, c'est toi qui dois aller, tu es l'homme choisi par Dieu pour cette bataille. Ainsi, elle pria Barak de rassembler une armée de 10 000 hommes, 10 000 hommes, issus de sa propre tribu, c'est-à-dire tribu de Nephtali et de Zabulon. Et Déborah lui promit que le Seigneur allait leur donner la victoire sur l'armée de Sisera, verset 7. J'aimerais juste m'attacher un peu sur le caractère de Barak. Barak était un homme de foi. Comment je peux le savoir? C'est quand on lit dans le Nouveau Testament, à Hébreux 11, verset 32, il était parmi les héros de la foi, mais il manquait de confiance en lui et voulait que Déborah l'accompagne à la bataille. Encore. Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Verset 8. Je dirais, Barak aurait dû adresser ses paroles à Dieu. Déborah lui répondit que Dieu livrerait Sisera entre les mains d'une femme. Donc, pour donner le courage à Barak, il faut qu'il y aille. Et c'est de sa responsabilité et non pas celle de Déborah. Maintenant, si le projecteur est focalisé sur Barak, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que de ne pas commettre la même erreur que Barak, c'est-à-dire de placer notre confiance dans les hommes au lieu de le placer dans le Seigneur. Ça, c'est quelque chose qui est évident dans cette histoire. Et si nous mettons le projecteur sur Déborah, qu'est-ce qu'il faut retenir? À l'exemple de Déborah, l'essentiel n'est pas d'être haut placé ou de diriger une grande équipe, mais d'apprendre à écouter Dieu et à lui obéir. Elle est restée à la place où elle est. Elle a agi à la place où Dieu l'a mis pour aider son peuple. Hommes et femmes, jeunes et âgés, nous pouvons tous acquérir cette capacité d'écouter Dieu et à lui obéir. Et l'Église, on a besoin des hommes et des femmes de cette trempe qui, maintenant à l'époque, notre époque devient de plus en plus rare. Ainsi, cela peut nous interpréter comment puis-je accroître ma capacité à écouter Dieu et à suivre ses commandements. C'est la question qui nous est posée à chacun. Dans quel domaine de ma vie ai-je le plus besoin de compter sur sa puissance? Ayant dit cela, nous passons maintenant et considérons l'histoire d'un autre juge, Jephté. Jephté, et je vous invite maintenant à faire un bond, à aller dans Juge chapitre 10, versets 6 et 7. Nous allons voir le contexte d'abord. Verset 6, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals et les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Amon et les dieux des Philistins. Et ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. Verset 7, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les vendit entre les mains des Philistins et entre les mains des fils d'Amon. Donc vous voyez que la situation se dégrade sérieusement avant l'arrivée de Jephté. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et là maintenant, c'est la septième fois que cette expression revient depuis le début de ce livre des Juges. Avez-vous remarqué qu'il mentionne sept familles de dieux différentes, des faux dieux? Les Baals, les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux de fils d'Amon et les dieux de Philistins. C'est la première fois que les Écritures mentionnent que le peuple d'Israël sert autant de dieux en même temps. Ces cultes montrent l'étendue des dégâts au sein du peuple de Dieu du point de vue spirituel. Et vous voyez, c'est dans ce contexte que Dieu appelle là maintenant Jephté comme juge au sein de son peuple. Mais qui est Jephté? Et c'est un encouragement pour nous aussi. Hein. Jephté, excusez-moi un peu de l'expression, un bâtard. Parce qu'il est un fils illégitime, chassé loin de la maison de son père. Car il est fils de son père et d'une concubine. Donc, il est chassé de la maison de son père par ses frères légitimes. Et ses frères lui disaient, on ne veut pas que tu aies part de l'héritage avec nous. Et donc il l'a chassé et rejeté par le peuple aussi. Il était au bon de la société. Voilà un homme où Dieu va utiliser pour la délivrance de son peuple. Jephté s'était vu obligé de vivre dans la région semi-sauvage au nord de Galade. Et là, Il a rassemblé une troupe d'hommes également méprisés par la société et ruinés, et qui le suivaient comme leur chef. Donc, je dirais, en notre expression aujourd'hui, il menait une vie de banditisme, hein, faisant des incursions sur les tribus du désert, ce qui les a rendus célèbres. Ça me donne du courage, ça me donne qu'il y a de l'espoir. Qu'un bâtard, Dieu peut s'en servir dans son œuvre, dans cette bataille. Et alors, Jephthé va combattre les fils d'Ammon. Écoutez bien, quelle est la stratégie que Jephthé va utiliser maintenant contre les fils d'Ammon? Il adresse un message pour le roi, et il envoie des messagers, et on peut lire ça en Juges chapitre 11, verset 12. Jephthé envoya des messagers au roi du fils d'Ammon pour lui dire, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, que tu viennes contre moi pour faire la guerre à mon pays ?» J'aimerais que vous lisiez toute la suite de l'histoire dans le chapitre 11. Mais de quoi parle-t-il? C'est un long discours. Et qu'est-ce qu'il explique dans ce discours? En fait, il dit, nous ne devrions pas avoir des problèmes ensemble. C'est un diplomate aussi, hein, n'est-ce pas? Parce que nous lisons au verset 24, il dit, ce que ton Dieu Kemosh te donne, et parle au roi du fils d'Ammon, à posséder, ne le posséderas-tu pas? Pour dire oui. Et tout ce que l'Éternel, notre Dieu, a mis en notre possession devant nous, nous ne le posséderons pas. Parce que le roi des fils d'Ammon, nous l'avons vu la semaine dernière, hein, voulait avoir ce que le peuple de Dieu a, c'est-à-dire la terre promise à Canaan. Donc ici, c'est quelque chose de plus bien quand même. Ce que ton Dieu Kemosh te donne à posséder, ne le posséderas-tu pas? Et tout ce que l'Éternel, notre Dieu, a mis en notre possession devant nous, nous ne le posséderons pas? C'est très étrange. Est-ce que vous voyez que c'est très étrange que Jephthé parle ainsi? Qu'est-ce que cela veut dire? Jephthé est en train de dire, on est content avec ce que nous avons reçu. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Parce que Jephthé met le seul vrai Dieu au même niveau que Kemosh, le dieu des Ammonites, qui est un faux dieu. Il le met sous le même plan. Il y a un souci là. Donc ça doit nous étonner que Jephthé nous parle de Kemosh, qui était une idole morte, un dieu mort au rang du dieu vivant. Quand on parle des idoles, il ne faut jamais oublier que derrière les idoles, il y a des puissances de ténèbres. Et donc des principautés des ténèbres, hein, des anges au service de Satan et qui se cachent derrière les idoles. Chaque fois que les gens pratiquent l'idolâtrie, ils s'adressent directement à des démons qui se cachent derrière les idoles. Et ici, Jephthé, ce qui me frappe surtout, il voit que ce sont ces puissances invisibles qui sont à la tête ce pays, il dit, ce pays, c'est-à-dire le pays d'Ammon. Et ça nous rappelle aussi, en Éphésiens chapitre 6, verset 12, que nous connaissons très bien, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, il y a des ennemis invisibles, mais réels. Satan avec ses anges qui luttent continuellement contre le peuple de Dieu, hein, jusqu'à aujourd'hui. Mais voir aussi autre chose à travers cela nous aide à voir que l'histoire mondiale est la voir sous un angle un peu différent. Nous avons les niveaux visibles qu'on peut lire dans les journaux, concernant les guerres, entre tel peuple, tel peuple, voir de telles situations. Il y a donc des niveaux visibles qu'on peut lire dans les journaux, dans les livres d'histoire. Mais il y a un autre niveau qui n'est pas visible, et derrière ceux qui dirigent le monde, il y a des puissances des ténèbres qui dirigent. Et ça, il faut jamais oublier. Donc Jephthé, ce qu'on le reproche, c'est qu'il aurait dû prendre position pour le seul vrai Dieu, des choses qu'il n'a pas fait. Donc ça, c'est la faiblesse de cet homme. Mais la grâce de Dieu était sur sa vie, un bâtard, un rien, un faible. Mais Dieu s'est servi de lui pour délivrer son peuple. Ne commettant pas aussi l'erreur, comme il avait fait, de considérer les faux dieux à même niveau que Dieu lui-même. Dieu est le créateur, Dieu est le tout-puissant, le souverain, mais les faux dieux, non, ils ne le sont pas. Et nous devrions ainsi être fermes dans notre théologie concernant ces choses. Il y a une autre leçon aussi, c'est de ne pas mettre les puissances de Satan à une place qui ne l'est pas. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup, surtout dans des pays où on adore Satan, on lui met sur une place tellement on tremble. Satan est un ennemi vécu par Jésus-Christ sur la croix du calvaire. Il est comme une abeille qui a un dard qui n'y est plus, et il vole, il fait ce qu'il a à faire, mais c'est un ennemi vaincu. Et c'est ça qu'il faut regarder. Le Seigneur Jésus-Christ a vaincu Satan et nous devrions le craindre à lui tout seul et de lui donner gloire et non pas comme ce que fait Jephté. Ce qui m'amène maintenant à considérer un dernier juge parmi les 14 que nous avons dans le livre des juges, Gédéon. Je voudrais vous dire déjà qu'avec Gédéon, il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu dire. J'aurais pu parler de la deuxième étape dans sa vie, je dirais sa chute. Mais on n'a pas le temps ce matin d'en préoccuper. Mais je vous laisse de voir ça chez vous, où il a bien commencé, mais il a mal terminé. D'abord, quel est le contexte du pays au temps de Gédéon? Dans le chapitre 6, les 15 premiers versets nous dépeignent la progression du désespoir et l'angoisse qui atteignent tous les enfants d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Juges chapitre 6, vous mettez votre doigt au verset 1. Ils sont réduits à l'esclavage entre les mains des Madianites. Juges chapitre 6, verset 2. Face à la puissance de cet adversaire, la défaite est totale et le peuple est sans espoir. L'insécurité s'accroît en Israël, les contraignent à se retirer dans les montagnes, dans les rochers fortifiés, dans les cavernes. Juges 6, verset 2, deuxième partie. La famine s'installe partout, les larmes, la tristesse, le malheur font partie du lot de la vie quotidienne. 40 années se sont écoulées depuis la dernière intervention d'un juge, Barak, et la génération qui a connu la délivrance est très âgée et la plupart sont décédés. Et leurs fils et leurs filles se détournent de Dieu. Et vous voyez, c'est dans ce tableau très sombre que Dieu porte un regard favorable sur Gédéon. Mais qui était Gédéon? Il fait partie de l'une des 12 tribus d'Israël, de la tribu de Manassé. Et ce jeune homme vit dans la crainte de l'avenir. Juges 6, 11 montre qu'il s'est tourné vers ses intérêts personnels et qu'il s'est replié sur lui-même. Nous lisons au verset 11 du chapitre 6, « Il battait du froment oppresseur pour le mettre à l'abri. » C'est un homme prudent et un homme qui veut survivre dans le contexte très difficile sous l'oppression ici de l'ennemi. Et vous savez, le pressoir était une cave creusée dans le sous-sol pour fouler les raisins et non pas les blés. Mais Gédéon s'en sert pour battre le blé en cachette des ennemis. Parce que le battage du blé était une méthode employée pour des faibles quantités et Israël était tellement affamé par les incursions des ennemis qu'il était obligé de se cacher dans le pressoir pour battre les blés pour survivre. Je remarque aussi dans cet homme, c'est un homme pessimiste. Il est loin d'avoir un caractère de battant. Je dirais, ça peut nous encourager, n'est-ce pas, si nous sommes de tel caractère aussi. Il est pessimiste, pourquoi je dis ça? Parce que quand l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire, je dirais dans la théophanie, c'est Jésus-Christ, la deuxième personne de la Trinité, qui est apparu sous forme de l'ange de l'Éternel avant son incarnation, avant son incarnation. Et donc, quand l'ange de l'Éternel se présente à lui, qu'est-ce qui vient à l'esprit tout de suite? À Gédéon. Ce qui lui vient à l'esprit, c'est ce qu'il n'a pas. Et on peut résumer ce qu'il n'a pas. Il a dit, 6 verset 15, Gédéon lui dit à l'ange, « Pardon mon Seigneur, comment sauverai-je Israël? Mon clan est le plus faible à Manassé. » Mon clan est le plus faible à Manassé. « Et moi, je suis le plus jeune dans la maison de mon père. » Donc il n'a pas de rang social, il fait partie de l'une des plus petites tribus. Et sa famille est la plus pauvre de cette tribu. Donc il n'a pas de place prépondérante dans sa famille, c'est lui le plus petit. Il dit, je suis le plus jeune dans la maison de mon père. Et donc, un homme comme cela n'a pas vraiment la motivation et est venu à l'idée de devenir un chef, le juge, hein, pour libérer son peuple. Et pourtant, c'est un homme comme ça que Dieu a choisi. Et Dieu a choisi un homme qui ne pense pas grand de lui. C'est pour cela que Dieu l'a choisi pour le service. Il n'était pas orgueilleux. Il peut aider le peuple de Dieu dans ce domaine. Et il se savait indigne et incapable de relever le défi que Dieu lui lançait. C'est pourquoi Dieu lui fit cette promesse au verset 16. « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Il y a une application aussi pour nous ici. Dans ce passage. Dans notre faiblesse, nous pouvons connaître la puissance de Dieu. Notre propre incapacité ouvrira nos yeux et nous verrons que rien n'est impossible à Dieu. Et vous savez, c'est pas une première fois que Dieu fait cela. Il l'a fait à Moïse, il l'a fait à Josué. La promesse est aussi répétée par le Seigneur Jésus à ses disciples. À Paul, il nous promet aussi dans Hébreux 13, 5, « Je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi. » Peut-être aujourd'hui, vous faites face à d'importants défis. Est-ce que vous passez par des moments difficiles ou déconcertants? Avez-vous le sentiment de ne plus pouvoir supporter le moindre coup? Êtes-vous égaré dans une vallée de tristesse, de découragement? Chers amis, rappelez-vous les merveilles, les merveilleuses promesses de Dieu. Car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te consumera pas. Ésaïe 43, verset 1 avec 2, et 2. Je serai avec toi. Mais il y a quelque chose dans le trait de caractère de Gédéon aussi qui peut être un encouragement pour nous. Alors que Gédéon est un tempérament inquiet, quelqu'un de pessimiste, ce qui frappe quelque chose d'insoupçonnable, c'est la force de caractère dans cet homme. Parce qu'il était soucieux de mettre le plus possible à l'abri, il se montre et il n'hésite pas à montrer qu'il est généreux et à puiser dans ses réserves pour offrir une offrande à l'ange de l'Éternel. Et je dirais, là, nous voyons une réelle force de caractère que possédait Gédéon. Il ne préparait pas son sacrifice à la va-vite. Il prenait le temps et l'ange d'Éternel, si vous lisez le passage, l'attendait dans la préparation de cette offrande. Et donc, son sacrifice n'était pas quelque chose qui ne lui coûtait pas, quelque chose fait comme ça à la va-vite, non. Ce sacrifice est le meilleur signe qui montre que ses véritables ressources jusqu'à là inexploitées. Donc Dieu a vu ce potentiel de courage manifesté face aux difficultés de son époque et l'a préparé à affronter un défi plus grand encore. 6 verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Wow, c'est un bon beau cœur. Quand on est inquiet, on est pessimiste, on est peureux, avoir cette approbation et ce regard de Dieu sur nous, ça fait quelque chose. Tu es un vaillant héros. Et Dieu va lui montrer maintenant. Il va lui demander quelque chose de très difficile maintenant pour nous montrer que dans cet homme si faible, si impuissant, si tout ce que le qualificatif que vous voyez, Dieu va montrer quelque chose qui jusque-là était insoupçonnable, insoupçonné. mais a vu en lui un potentiel, à savoir qu'il va lui demander quelque chose de très difficile, et a commencé dans sa propre maison. Je vous invite à lire Juges chapitre 6, versets 25 à 27. Dieu lui appelle à être maintenant un témoin dans sa propre maison. Et le texte nous dit que ce que l'Éternel lui demandait est tellement difficile pour lui qu'il le faisait pendant la nuit. Écoutez bien Juges chapitre 6, versets 25 à 27. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. » Verset 26. « Tu bâtiras ensuite et tu disperseras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. » Verset 27. « Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait, vous voyez, c'est un peu la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. » Je dirais que ce soit de nuit ou de jour, hein, la finalité des choses, c'est que Gédéon obéit à Dieu. Et son propre père même était le premier à reconnaître le courage de son fils. Imaginez, son père possédait une idole dans la maison et Dieu lui demande, il faut supprimer cette idole, là-bas. Tout ce qu'est les conséquences qu'engendrera tout autour dans la maison, non seulement, mais en dehors de la maison. Mais il est allé le faire. Vous savez, on peut se demander, quel est le secret de la réussite des Gédéon, vu son tempérament, vu qui il était? La réussite de Gédéon était due à deux éléments. Il était rempli de l'Esprit de Dieu. Juges 6, 34, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il se trouvait, deuxième chose, dans une situation où il devait compter que sur la puissance de Dieu. Il était rempli de l'Esprit de l'Éternel. Dieu l'a coincé, l'a mis dans une situation où il ne peut rien d'autre que de s'appuyer sur Dieu. Juges 7, 2, l'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre ma vie entre ses mains. » Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui l'a mal délivré. Donc, voilà pourquoi Dieu lui demande de réduire ses troupes jusqu'à combien? À votre avis? 300. Jusqu'à 300 hommes. Alors, au départ, ils étaient combien? 32 000. Et l'ennemi est innombrable de l'autre côté. Pour que le peuple d'Israël ne dise pas c'est grâce à ma main et mes soldats qu'on a gagné le combat. Dieu va lui mettre un défi pour lui apprendre, tu vas compter sur moi, c'est moi qui va combattre et non pas toi. Et donc, il y a une application ici, donc, c'est 300 hommes, hein, au départ c'était 32 000 hommes comme nous l'avons dit. Il y a une application. Ne nous décourageons pas s'il semble nous manquer de ressources nécessaires pour accomplir la tâche à laquelle Dieu nous appelle. C'est un défi pour lui, à commencer par sa propre maison. C'est un défi lancé contre son père et celui qui possédait l'idole, le gardien de cette idole dans la maison. Il n'a besoin que d'une personne courageuse, prête à écouter et à obéir. C'est ce que Dieu attend de nous. Donc voilà un encouragement pour chacun d'entre nous, si nos circonstances présentes sont une source de frustration, c'est difficile, c'est presque infaisable, c'est, voilà. Mais à ce sujet, peut-être, Dieu est-il en train de vous préparer à accomplir une autre tâche? Quelle leçon veut-il nous faire apprendre? Avant de m'arrêter, revenons et faisons un résumé. Quelles sont les qualités requises pour que Dieu puisse se servir de nous, hommes, femmes, jeunes, âgés? Vous savez, Dieu peut employer des savants comme des ignorants. Dieu peut employer des généraux puissants comme des enfants. Dieu ne regarde pas avant tout aux capacités, mais aux dispositions du cœur. Et vous voyez ce qu'on peut retenir dans ce livre de Juges, et qui est tellement encourageant. Je ne vous ai parlé que de 4 juges, il y en a 14. Mais pour vous montrer ce que l'apôtre Paul nous dit plus tard dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27 à 29. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Celles qui ne sont point pour les dures alliances, celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. N'est-ce pas ce qui a été dit pour Gédéon? Aujourd'hui, Dieu peut vous employer, vous aussi, à la place où vous êtes, avec sa grâce, comme nous avons entendu parler ce matin. Je dirais que l'étude du livre des juges nous encourage et nous inspire aussi à imiter dans l'aspect positif des traits de caractère de ces juges qui sont un exemple pour nous aujourd'hui. Et quelque chose que je trouve très fort dans le livre des juges, vous voulez donner une preuve de l'inspiration de l'écriture, et vous l'avez aussi dans ce livre. Pourquoi? Parce que 4 de ces 6 juges se trouve nommé dans Hébreux 11. Est-ce que vous savez les juges qui sont nommés dans Hébreux 11? Parmi ce qu'on a parlé ce matin? Déborah? Gédéon? Il n'est pas juge? Barak? On en a parlé. Et qui est le dernier qu'on n'en a pas parlé? Samson. Ce qui me frappe, c'est la grâce de Dieu dans ces vies qui, je vous ai venu de vous décrire succinctement, ils n'étaient pas des hommes, des femmes parfaits. Ils avaient des lacunes. Parfois, quand on pense à Samson, ouf! Et ce sont des personnes comme ça que Dieu a utilisées. Et moi, je vois que des hommes et des femmes à qui on peut faire de reproches, et c'est eux qui sont parmi les héros de la foi, et ceux qui étaient, je dirais, presque parfaits, un parcours sans faute, ils n'y figurent pas dans Hébreux 11. En parlant de Othniel, nous en avons parlé, par exemple. Donc, c'est des hommes auxquels Dieu pouvait adresser des reproches dans leur vie, et Gédéon, par exemple, hein, parce qu'à la fin de sa vie, je vous ai dit, il a sombré dans l'idolâtrie. Et il figure dans Hébreux 11 parmi les héros de la foi. Quand on parle de Jephté, il s'est montré agressif contre les Éphraïmites. Il en a tué 42 000 au gué de Jourdain. Violent. On pense à Barak tout à l'heure. Craintif, un peureux. Si tu viens avec moi en parlant à Déborah, je viens, mais si tu n'y vas pas, je n'irai pas. Peut-être c'est votre cas aussi. Comme lui. Et Samson, n'en parlons pas. Les 4 plus faibles auxquels on peut adresser le plus de reproches se trouvent nommés en Hébreux 11, le chapitre des héros de la foi. Et pourtant, comme je viens de le dire, Othniel, Ehud, Déborah ne s'y trouvent pas. Et ça, c'est quoi? On peut résumer, c'est la manifestation de la pure grâce de Dieu. C'est le thème de notre culte d'adoration aujourd'hui, disons la grâce de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, notre assemblée est en nouvelle phase. Notre assemblée va vers une direction dans le futur proche. Notre assemblée a besoin des hommes et des femmes qui se lèvent pour être au service de Dieu. Vous n'avez pas d'excuses. Oh, je suis faible, je suis peureux, je n'ai aucun don, je ne peux rien. Regardez ces hommes, ces femmes. Ils sont tels aussi. Et avec la grâce de Dieu, vous pouvez être un instrument puissant entre ses mains. Si vous vous soumettez à lui, si vous voulez obéir à lui, que ce soit ainsi.